C'était trop bien de discuter avec toi. J'ai l'impression de parler avec une copine.
Champion du monde
40-0.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! L'hiver s'éloigne, petit à petit. Effaçant peu à peu les paysages neigeux que l'on aime autant, que l'on déteste le froid qui nous cisaille. Suis-je en train de devenir complètement givré et de vous asséner ma prose en mousse, que dis-je, en flocon? Vous dites que ça y est, vous m'avez perdu, que je me lance dans l'écriture de haïku. Eh bien non, je continue bien sur le sport féminin. Mais cette introduction m'a été inspirée par mon invité du jour, Marion Aherty, et son sport extraordinaire. Marion est quadruple championne du monde de snowboard freeride. Une performance inouïe, hommes et femmes, et ski et snow confondus dans l'histoire du freeride. Si le freeride est abstrait pour vous, on pourrait le traduire par pratique libre du snowboard. Et libre, ça pourrait résumer toute la personne qu'est Marion. Depuis des années, elle trace sa route, ou plutôt sa ligne, dans les versants des montagnes qu'elle ride, comme une artiste, du bout de son snowboard. Et le trait n'est pas droit, car tout n'a pas été lisse dans son parcours, et c'est de ça dont on a discuté. Marion pratique un sport extrêmement dangereux, mais tout, sauf une tête brûlée. C'est une gamine qui faisait des backflips dans le foin avec ses copains et qui continue finalement toujours de jouer un peu aujourd'hui, mais sur les plus beaux terrains de jeu qui soient, la nature. Loin des clichés des athlètes qui pratiquent des sports extrêmes, Marion incarne la spiritualité et se remet en question perpétuellement. Une femme apaisée et apaisante qui a compris à quel point la vie pouvait être fragile et mériter d'être vécue de la façon la plus pleine qui soit. Et aussi parce que partir à l'aventure, ça passe aussi souvent par la découverte de soi. Parole de Marion Aherty. Alors ma petite poésie du début, vous le comprendrez rapidement en écoutant cet épisode, c'est parce qu'avec Marion, c'est une ode à la vie. Salut Marion.
Salut Cléo, ça va?
Bah ça va et toi?
Bah ouais, écoute, la forme, hein, après avoir gagné un nouveau titre, ça fait plutôt plaisir au moral. Hein.
Bah ouais, c'est clair. Non bah félicitations déjà. Bon, on ne dira pas que je te l'ai souhaité en off déjà 150 fois à peu près, mais championne du monde pour la quatrième fois, donc de snowboard freeride, 2017, 2019, 2020, 2021, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais, exactement, t'as donné les bons chiffres.
Bon, c'est bien. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est peut-être la question la plus con du monde, mais forcément, je suis obligée de te la poser parce que ça fait très peu de temps que t'as gagné ton quatrième titre. Ça te fait ressentir quoi d'être pour la quatrième fois championne du monde de snowboard freeride?
Eh ben, ça confirme que les choses que j'ai mis en place ont plutôt bien fonctionné. Ça rassure, ça apporte beaucoup de satisfaction personnelle, beaucoup de joie autour de moi, que ce soit ma famille ou mes amis. Ça a vraiment pas de prix quand je peux apporter du bonheur comme ça, juste en faisant des résultats et en faisant ce que j'aime, c'est le tout l'or du monde. Enfin, un résultat comme ça, t'es sur ton petit nuage, donc pourvu que ça dure.
C'est marrant, t'es limite plus contente pour tes proches que pour toi-même.
Bah ouais, c'est un peu ça, ouais, parce que en fait, au final, je fais ce que j'aime, donc je suis heureuse un peu tous les jours d'être sur ma planche de snowboard, donc c'est juste de voir un peu l'émotion que ça procure autour de moi, c'est assez magique en fait, ces moments, surtout quand t'as tes parents qui t'appellent avec les larmes aux yeux, super heureux pour toi et tout, ça, c'est touchant quoi, donc c'est clair que ça, c'est ce qui m'apporte le plus, c'est de rendre les gens heureux via ces résultats, c'est quelque chose d'assez incroyable.
Ouais, c'est marrant, parce que toi, en termes d'émotion, puisque c'est la quatrième fois, donc bon, on va pas dire que t'es blasé, je pense pas, mais c'est un peu une question con, mais ça a une saveur particulière à chaque fois, ou finalement maintenant, c'est quelque chose que t'as appris à gérer plutôt bien
Bah, c'est sûr que par rapport au premier titre, le premier titre, c'est quand même un moment assez exceptionnel parce que tu te donnes à fond corps et âme depuis des années, c'est un rêve de petite fille. Du coup, une fois que tu as ton premier titre, tu es là, bon, bah en fait, je fais quoi maintenant? Mais en fait, c'est tout simplement une histoire de continuer son rêve et d'accumuler plusieurs titres pour pouvoir faire durer ces moments de bonheur.
Et ça te donne toujours envie, même après 4 titres, de continuer, de faire ce que tu fais, de gagner encore 2 titres de championne du monde derrière?
Ouais, carrément, parce que tu vois, en fait, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, parce que, en fait, j'ai envie de gagner, mais c'est pas parce que j'ai envie d'être la meilleure contre les autres, c'est parce que j'ai envie d'être. Je suis en compète avec moi-même tout le temps, en fait. C'est un peu une guerre que je gagne avec moi-même, dans le sens où j'ai pas forcément toujours confiance en moi, où j'ai toujours des doutes, des peurs, et en fait, c'est toujours un combat gagnant face à moi-même, en fait, ces résultats et ces titres de championne du monde.
Ouais, c'est fou, c'est ouf que tu dis ça quand même, que t'as souvent des peurs, que t'as pas toujours confiance en toi, parce que quand on regarde ce que tu fais et ton sport, on va y venir, parce que j'ai quand même envie que tu nous expliques un petit peu aussi quel est ton sport, parce que c'est pas forcément un sport très connu. Mais c'est ouf parce qu'on se dit, putain, quand on te regarde descendre comme ça, on se dit, bah, la nana, elle a confiance en elle. Parce que moi, personnellement, jamais de la vie, je ne fais ça.
Bah ouais, mais tu vois, c'est dans le domaine où j'ai pratiquement le plus confiance en moi finalement. C'est parce que ça fait tellement partie de moi depuis toute petite que j'ai l'impression que c'est un peu la seule chose que je sais maîtriser dans ma vie. Et ben, c'est une planche de snowboard. Donc c'est assez drôle. C'est assez drôle, ouais, comme parcours, tout ça, personnel, entre guillemets.
Bah, ah, vas-y, on va en parler forcément. Moi, j'aimerais juste bien déjà, dans un premier temps, qu'on revienne sur bah, ta discipline, qui est le free ride et non le freestyle. J'aimerais bien que tu nous expliques en fait quel est, enfin, nous expliquer cette discipline-là, ce que tu fais. Et nous expliquer un peu comment c'est cadré en fait, parce que vous avez pas vraiment de fédération, je crois. Et c'est un sport un peu à part, donc je trouve que c'est intéressant bah, de comprendre un peu mieux en fait.
Alors déjà, dans le mot free, ride, t'as free comme liberté et ride, donc t'es totalement libre dans ta façon de rider. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller en dehors des pistes, tracer ta ligne. En fait, il faut voir ça comme un dessin, comme une page blanche à montagne où tu viens tracer avec ta planche de snowboard comme un crayon, ta propre ligne. Donc en fait, tu vas vraiment rentrer en osmose avec la nature, essayer de comprendre la neige. Sauter le moindre rocher, si en plus de ça, tu arrives à ajouter des figures avec ça sur tes sauts, comme je sais pas, un backflip ou un 360, et ben ça va te donner par exemple des scores en plus, des points en plus lors des jugements en compétition devant les juges. Tu as aussi des critères de la rapidité, de la fluidité, du air and style, de la créativité, de l'originalité de ta ligne en fait. Faut vraiment voir ça comme quelque chose limite d'artistique où tu vas vraiment t'adapter à la montagne et tracer ta ligne.
Toi, c'est le Freeride World Tour, je crois, qui organise ces compétitions-là. Donc, vous n'avez pas vraiment de fédération, c'est un organisme privé qui organise ça.
Ouais, en fait, exactement. C'est un circuit privé financé avec des sponsors. Donc, on n'a pas du tout de fédération derrière. Ce n'est pas olympique. Par contre, en fait, c'est à nous de nous entourer de notre propre équipe si on veut vraiment percer là-dedans. C'est-à-dire un coach qui va intervenir un petit peu sur ma technique. Ça peut être un entraîneur physique. J'ai même un prep mental aussi qui vient me soutenir dans certains moments. J'ai une kiné, j'ai un agent. Enfin, j'ai pas mal de personnes qui gravitent autour de moi, qui m'aident vraiment à avancer. Et en fait, c'est ma propre structure privée, entre guillemets, où mes sponsors m'aident à financer tout ça.
C'est ta petite entreprise perso, en fait.
C'est ça, mais exactement. Souvent, je réponds aux gens comme quoi, en fait, on est notre propre petite entreprise, en fait. C'est ça qui est rigolo.
Et c'est assez atypique parce que dans la manière de juger votre sport et quand vous descendez, quand vous faites des runs, vous avez plusieurs runs sur chaque compète et vous descendez les mêmes faces.
Les mêmes montagnes. En fait, en gros, tu as 5 étapes sur le circuit du Freeride World Tour. Normalement, tu en as une au Japon et une au Canada, mais cette année, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Une en Andorre, une en Autriche et la finale en Suisse. Et en fait, tu as un seul run à chaque fois. Donc, c'est ça la difficulté de notre sport, c'est qu'en fait, on ne peut pas passer avant sur la face. Donc, en fait, on fait tout un repérage à l'aide de jumelles ou de photos, ou même des fois, on a des images en drone. Donc, c'est ça qui est le plus dur, c'est de réussir à mémoriser notre ligne et à réussir à l'imaginer une fois qu'on est en haut et retrouver ce qu'on a pu voir avec l'aide des jumelles en bas. et on a un seul essai et on n'a pas droit à l'erreur, en fait. C'est ça qui est vraiment dur.
Donc, tu es dans un sport, vraiment, on va dire, il y a une espèce de grande part, pas d'improvisation, mais tu fais un peu au feeling aussi, quoi. C'est vachement du feeling.
Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, tu as pas mal de choses aussi qui rentrent en compte, dans le sens où tu dois analyser la qualité de la neige, dans quel sens le vent a soufflé la veille, l'exposition du soleil, parce que la neige, pareil, elle peut changer aussi au cours de la journée. Tu vois, en Autriche, par exemple, on est passé, nous, les filles, en snowboard, la dernière catégorie. Et entre-temps, la neige avait beaucoup changé. Donc, j'ai dû changer, adapter mon run au dernier moment. Après, la chance que j'ai, c'est que je connaissais assez par cœur cette montagne, parce que ça fait maintenant 5 fois que je la gagne, l'étape en Autriche. Donc ouais, t'as pas mal de paramètres qui rentrent en compte, et ça prend beaucoup de temps à assimiler tout ça.
Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est clair. Non, c'est hyper impressionnant. Et j'aimerais bien aussi forcément revenir sur les tout débuts, parce que je crois que tu viens d'une famille de snowboarders de base. T'as tes frères qui avaient...
Ouais, mon frère, c'était un snowboarder du dimanche, tu vois. Il allait rider avec les copains de temps en temps le week-end, du coup, il m'embarquait avec lui. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai rencontré l'entraîneur du club de la petite station qui était au-dessus de chez moi. Donc là, j'ai commencé la compétition et tout et tout.
Ouais, donc c'est... Tout ça. La première fois que tu as été sur un snow, t'avais quel âge ?
J'étais petite, j'avais 10 ans quand même. Hein. J'ai eu ma première planche sous le sapin. J'ai commandé ma planche au Père Noël et puis comme de par hasard, elle est arrivée.
C'est toi qui l'avais demandé ?
Ouais, c'est moi qui l'avais demandé. En fait, c'était mon frère qui m'a inspirée, mais c'est surtout aussi un ensemble de choses où j'avais acheté des magazines, où je voyais des nanas voyager autour du monde à l'époque avec leurs planches sous le bras. Et puis leur lifestyle avait l'air trop stylé, toujours... voyager à travers le monde, rencontrer à chaque fois des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, faire la fête aussi en même temps. Enfin, ça avait l'air d'être un milieu vraiment fun. Donc, c'est vraiment ce qui m'a attirée. Et je faisais du ski aussi à l'époque. Et puis, l'entraîneur que j'avais, il n'était pas très fun. Je voyais les copains en snow qui s'amusaient, qui rigolaient tout le temps. Donc, j'étais là, bon, je vais faire un petit choix à un moment donné. Et puis, ça a été le snowboard.
Et là, avec le recul maintenant que tu as, tu dirais vraiment que le snowboard, c'est un milieu qui est fun ?
Ouais, totalement. Totalement. Et c'est vraiment un beau sport avec des belles valeurs. En tout cas, dans le milieu du snowboard en France, on est tous super copains. C'est vraiment une grande famille. Et on peut tous compter l'un sur l'autre dès qu'on a besoin de quelque chose. Enfin, c'est vraiment un super beau sport. En fait, on voit ça comme quelque chose un peu de solitaire. Mais finalement, on est un peu en équipe, surtout en frérette. C'est qu'on ne peut pas aller en montagne seul. On est obligé de compter sur l'un et sur l'autre. Si jamais il nous arrive un problème comme une avalanche, par exemple, il faut que ton pote en face il soit prêt à dégainer son Narva, DVA, pelle sonde. Donc voilà, c'est un sport d'équipe quand même, l'air de rien.
Bah oui, effectivement. Bah, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas trop compte parce que quand on vous regarde comme ça et puis vous faites des runs en solitaire, comme tu disais, effectivement, tu n'as pas forcément l'impression que c'est un sport de groupe. Mais c'est intéressant aussi d'avoir ce côté-là. Mais toi, quand tu es... Ça, c'est un truc qui, moi, me passionne et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de se dire, quand t'as 10 ans, que tu vas te lancer dans un sport comme le snow. Alors après, bien évidemment, à 10 ans, tu faisais pas du freeride, j'imagine bien, parce que ça, c'est un peu compliqué, je pense. Mais t'avais déjà, toi, cette personnalité-là, quand même, un peu casse-cou, je sais pas si c'est le mot, mais...
Ouais, carrément. En fait, c'est que... Dans mon village aussi où j'habitais, j'étais tout le temps avec des copains. Donc en fait, on a fait les 400 coups ensemble, aller faire des backflips dans les foins, enlever les pièges à renards. Enfin, j'étais tout le temps constamment dehors à être casse-cou, à monter aux arbres, etc. Et du coup, c'est devenu un peu automatique de pratiquer du skateboard, du vélo, puis ensuite le snow. Donc je me suis jamais vraiment posé la question pourquoi j'aimais autant le snowboard, en fait. C'est venu vraiment naturellement.
Ouais, ça a toujours été une évidence.
Ouais, c'est ça un peu, ouais. C'est ça qui est assez drôle. Je pense que c'est vraiment une question aussi d'éducation. Tu vois, si mes parents m'avaient élevé à juste jouer à la Barbie, peut-être que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'ai eu vraiment la chance d'être entourée par des personnes qui m'ont toujours tiré vers le haut au niveau challenge physique et même mental, en fait, finalement. Donc,
Bah, sauf s'il y avait eu des Barbies snowboardeuses, ce qui, à mon avis, n'existait pas.
Non, mais c'est clair. Hein. Franchement, quand je revois mes Barbies à l'époque, c'était pas du tout des Barbies snowboardeuses. Hein. C'est clair et net.
Et t'as toujours su que tu voulais en faire ton métier? Enfin, c'est un peu bateau comme question, mais ça a toujours été, comme tu dis, que c'était une telle évidence, en fait, que tu t'es jamais posé la question du snow.
Ben, j'ai toujours gardé à l'esprit qu'en fait, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, le snowboard. Donc, j'ai continué mes études jusqu'en master, jusqu'en école de commerce, au cas où mon rêve ne se réalise pas. Mais en fait, au fond de moi, je savais que je pouvais réaliser quelque chose en snowboard et j'arrive pas à te décrire pourquoi et comment, mais je savais qu'au fond de moi, eh ben, j'étais fait pour ça et que même si j'avais échoué dans d'autres disciplines que le freeride en snowboard, eh ben, je me suis accrochée jusqu'à en premier titre de championne du monde de freeride en 2017.
T'avais un pressentiment.
Ouais, c'est ça qui est rigolo. Je voulais pas laisser tomber, je savais que je pouvais y arriver en fait, c'est bizarre mais...
C'est des choses qui s'expliquent pas en fait, c'est le truc comme un peu le destin, je sais pas si tu crois au destin ou pas mais...
Ouais, si à fond, moi je suis à fond là-dedans. si carrément, je pense que peut-être que mon destin était fait pour ça.
Et dans ton parcours scolaire, j'ai lu que donc, t'as commencé, tu disais hyper jeune le snow et que certains profs en fait t'ont vachement soutenu quand t'étais plus jeune et que t'étais au lycée et tu commençais les compétitions et que t'étudiais en même temps et que vraiment il continuait à te faire des cours en visio je crois déjà à l'époque comme quoi c'était
c'est clair et puis en plus c'était vraiment pas encore trop développé à l'époque au lycée j'ai eu de la chance d'être tombée sur des profs incroyables qui étaient eux aussi passionnés par le sport et qui m'ont suivi à fond et tant que je ramenais des bonnes notes et que je travaillais il y avait aucun problème et puis c'est surtout qu'en fait je devais intégrer le sport études en snowboard à l'époque et c'était compliqué au niveau des finances, mes parents avaient pas forcément le budget. Donc, j'ai continué à côté avec un lycée normal non aménagé en STG à l'époque. Et puis, j'ai eu de la chance de bien réussir dans ce bac et d'avoir des profs vraiment exceptionnels que je ne remercierai jamais assez.
Et tu penses que ça... C'est vrai que moi, ça fait écho un peu avec la situation actuelle parce que là, maintenant, tu dis que la jeunesse, c'est pas forcément évident pour eux en ce moment avec tous les cours justement qui sont faits en visio. Certains que ça doit un peu démotiver aussi, le cadre des études. Toi, ce soutien de tes profs, ça a été vraiment constitutif de ta carrière d'après, en tout cas. En tout cas, ça t'a donné confiance en l'avenir.
Ça m'a fait tellement plaisir d'avoir des profs qui croient en moi, que ce soit au niveau scolaire, mais aussi à côté. En fait, au niveau activité sportive, parce que t'as des profs qui prennent ça vraiment à la légère comme juste une activité loisir. Et moi, ils voyaient que je me donnais à fond pour faire des résultats. Je partais le vendredi matin à 6h pour rentrer le dimanche soir à 18h. Je faisais mes cours dans le bus. Enfin, tu vois, c'était. Enfin, ils m'ont vraiment donné ma chance et ça a été génial de tomber sur des humains comme ça qui étaient compréhensifs en mes rêves d'adolescente en fait.
Bah ouais, tu m'étonnes effectivement. Et ce qui peut d'ailleurs c'est ça. Enfin, je trouve ça hyper beau et c'est pour ça que je voulais en parler parce que des fois le milieu scolaire est un peu décrié aussi, la manière l'apprentissage, etc. Et je trouvais que le fait de valoriser ça et de montrer aussi qu'il y avait des aspects positifs.
Mais je suis trop d'accord avec toi. C'est bien aussi de mettre le doigt sur les choses positives.
Et tu parlais aussi, je rebondis, tu parlais de l'aspect financier tout à l'heure, comme quoi tu devais aller en sport études, c'est ça?
Donc j'avais eu assez de résultats au niveau compétition en troisième pour rentrer au lycée de Villard-de-Lans. Mais c'était question budgétaire, mes parents ils pouvaient pas suivre, c'était un peu compliqué avec leur entreprise à l'époque où toute ma famille bossait ensemble. Donc c'est là où j'ai commencé aussi à vraiment bosser, même déjà au collège, je faisais du babysitting, j'essayais de trouver des boulots à gauche, à droite. J'ai bossé chez Red Bull aussi en distributrice de canettes là.
Yes.
Avec la Mini à Grenoble là.
Avec une voiture
qui capte, c'est ça, avec la grosse bouteille sur le
top. Ouais, je vois bien.
J'ai bossé dans des bars, enfin je suis passée par pas mal de petits boulots pour pouvoir financer mon snowboard à côté. Après j'ai eu la chance à un moment donné d'avoir des sponsors qui m'ont donné du matériel et aussi un petit peu de budget pour financer mon hiver, donc ça a été un certain confort. Et puis le fait de vivre chez mes parents pendant un bon bout de temps, et ben ça faisait économiser des loyers aussi.
Sous.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Mes parents, ils ont trop assuré.
T'as jamais été un peu désabusé à un moment donné, au début de ta carrière, quand tu disais quand c'était difficile et que tu pouvais peut-être pas forcément faire tout ce que tu voulais, parce que budgétairement, financièrement, c'était compliqué. Il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit, oh merde, tant pis, vas-y.
je laisse tomber et puis j'assure mes arrières, quitte à trouver un CDI ou je sais pas quoi dans une boîte ou...
Pas forcément, parce que comme je te disais tout à l'heure, je savais que je pouvais faire quelque chose avec ma planche de snowboard. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand t'es entouré un peu de tes meilleures copines d'enfance qui te disent, bon, écoute Marion, il y a un moment, il faudrait peut-être que t'ailles faire un CDI à quelqu'un.
Un vrai métier.
Avoir une vraie vie. Et ben non, c'était pas question. Je suis tellement contente, même encore aujourd'hui, de mon rythme de vie, de me lever à l'heure que je veux, de faire le programme que j'ai envie, de travailler avec les personnes que j'ai envie. C'est cette liberté-là que je n'ai pas seulement sur la planche de snow, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, à laquelle je suis hyper attachée.
Ouais, et puis au final, du coup, tu t'es vraiment donné les moyens de pouvoir arriver là aussi. Parce que tu dis, finalement, t'as peut-être pas été dans des CDI, dans des petits CDI, dans des entreprises, mais t'as fait plein de taf quand même pour pouvoir t'en sortir.
Exactement. Et puis tu vois, l'air de rien, bah, en fait... Quand tu deviens champion du monde, quand tout ce que tu mets en place, ben c'est pareil, c'est un travail en fait, c'est ta propre entreprise à toi toute seule. Et en fait, même si j'ai pas un CDI dans telle et telle boîte, et ben je travaille pour ma propre boîte en fait.
L'auto-entreprise Marion ART.
Voilà, c'est ça, exactement. Non, puis, tu vois, en fait, on s'arrête souvent juste sur les résultats sportifs, mais ouais. Derrière tout ça, tu vas faire du développement produit avec tes sponsors, tu vas créer des projets vidéo, tu vas créer des projets pour tes réseaux sociaux. Enfin, c'est un espèce d'éventail de choses que tu fais au quotidien que certaines personnes sont loin d'imaginer, même ma famille, en fait. C'est,
ouais.
Peut-être mon copain s'en rend compte parce qu'il est un peu dans le même milieu, mais tous les jours, tu fais des choses différentes, en fait. C'est assez incroyable. Même, ouais. Tu vois, organiser un trip, en fait. Organiser un trip, il faut que tu bookes ton avion, il faut que tu bookes tel et tel bus. Enfin, c'est... Tu fais agence de voyage en même temps, c'est assez, assez dingue.
En fait, t'as mille métiers maintenant, t'es pas que sportif de haut niveau.
Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, le snowboard, en fait, finalement, sur une année, c'est peut-être 20% de mon temps. Et le reste du temps, bah, tu vas faire ta préparation physique, tu vas aller chercher des nouveaux contrats. Enfin, t'as tellement de trucs qui rentrent en compte, c'est assez hallucinant.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est vraiment la définition d'une entreprise, quoi. C'est trop marrant, c'est exactement ce qu'on disait au début.
Exactement.
Du coup, je vais revenir un petit peu aussi sur ta carrière et sur ton cheminement pour arriver jusqu'au freeride, parce que t'as pas, comme on le disait tout à l'heure, t'as commencé par le snow, je crois que t'avais testé d'autres disciplines, le halfpipe, je crois, tu t'étais testé à plusieurs disciplines pour arriver finalement sur le freeride. Comment t'es arrivé sur le freeride?
En fait, il y a eu un moment dans ma vie, en fait, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions si je devais pas arrêter le snowboard et aller chercher des CDI.
Tu vois, finalement.
Et parce que ça marchait pas forcément bien, ouais. Parce qu'en slopestyle, ça marchait pas très bien. J'ai essayé de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Sochi et ça a pas marché. Et c'est là où je me suis posé pas mal de questions et le freeride, ça m'avait toujours attirée. Et en fait, il y a une année où je suis allée sur le circuit du qualifier. Donc, c'est le circuit qui te permet de monter sur le World Tour, sur Free World Tour.
Ouais.
Et en fait, j'ai gagné plusieurs étapes en une semaine. Et au même moment, une nana du World Tour s'était blessée. Donc, ils m'ont donné une invitation 3 jours avant la première étape. Et là, en fait, tout s'est très vite enchaîné. Je me suis fait propulser dans ce milieu. J'ai fait 3e la première année. Et là, j'étais il y a vraiment quelque chose à faire en freeride. Et ben, je vais me donner tous les moyens à 100%. Je vais déménager à Chamonix, apprendre à faire la montagne. Et on verra ce que ça donne. Et en fait, ça a été le meilleur virage à 90 degrés de ma vie.
J'avais lu qu'il y avait aussi quelqu'un qui t'avait fortement encouragé à aller vers le freeride, Lionel Broche, c'est ça? Dis-moi si je me trompe.
Ouais, c'est ça, Lionel Broche. C'était pendant cette période-là où il m'a... Enfin, c'était pendant les Jeux Olympiques de Sochi, juste avant. Il m'avait beaucoup aidé à découvrir ce milieu-là et j'avais vraiment apprécié la montagne. Après, malheureusement, Lionel a eu un accident.
Ouais.
Ça a été super compliqué à gérer pour moi mentalement. J'avais vraiment peur d'aller dans ce domaine-là. Et puis après, de fil en aiguille, tu grandis, tu te poses les bonnes questions. Et puis, je me suis lancée en hommage aussi à Lionel. Donc, ça fait malheureusement partie de nos sports, ces accidents. C'est la partie un peu triste. Ouais,
J'allais y venir parce que c'est vrai que tu pratiques quand même, je pense que je me risque pas trop à dire, un des sports les plus dangereux qui existent. Comment toi tu gères cet aspect-là? Parce que tu le disais, un de tes mentors là-dedans, ça a été Lionel qui a eu un accident en montagne. Ça, c'est des choses qui sont tellement choquantes. Je comprends que ce soit difficile après de se lancer à 100%. Comment t'as géré? Comment tu continues de gérer ce danger et ce risque permanent?
Ça m'a fait un peu modifier mon regard aussi sur la vie en général, dans le sens où... où j'ai commencé un peu à arrêter à me prendre la tête sur beaucoup de choses et apprécier vraiment la vie à 200%. Et en fait, à travers mon sport, en fait, j'ai la chance de...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De vivre un bonheur à l'état brut, en fait. Du coup, c'est pour ça que je ne me pose pas la question. Enfin, on est obligé de se poser la question sur ces accidents, sur ces risques, etc. Mais... En fait, on n'est pas des têtes brûlées. On va vraiment mettre tout en place pour que tout soit sécurisé tout le temps, en fait. Et ça, on ne le voit pas forcément. On ne voit que nos images d'action et de performance, mais on est constamment dans l'analyse. Là, quand je dois faire un projet en montagne, et ben, j'ai toujours une équipe de sécu derrière moi. J'ai un guide. J'ai mon copain aussi qui fait partie de cette équipe au niveau sécu. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place pour réduire les risques au minimum. Après, c'est aussi la façon dont on voit la vie dans son quotidien. C'est est-ce que je serais vraiment heureuse d'avoir un métier, un CDI et être assise toute la journée sur mon bureau? Et ben non, en fait, je préfère prendre ces risques entre guillemets, les minimiser et puis vivre ma vie pleinement avec toute la joie et le bonheur que ça me procure, en fait. Tu vois, par exemple, moi, je me sens plus en sécurité à aller rider une montagne en face de chez moi que aller me balader en pleine nuit dans la ville de Paris, tu vois.
C'est, tout est une histoire de perspective. Je pense que t'as raison.
Ouais, c'est vraiment une histoire de perspective et comment tu vois le risque dans la vie de tous les jours, finalement. Parce que prendre ta voiture, c'est pareil, c'est un risque, enfin voilà, c'est chacun voit les choses différemment.
Et il y a déjà des fois où tu t'es quand même vraiment fait peur?
Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça m'est déjà arrivé de me faire peur. Ça me rappelle à l'ordre et puis ça me permet de voir que, enfin, on peut pas se reposer sur ses acquis et que le risque est là tous les jours. En fait, à partir du moment où je mets ma planche sous les pieds, je prends un risque entre guillemets et il faut être conscient tous les jours de ça et faire attention à soi parce que ouais, c'est, enfin, faut faire attention.
Et question un peu bête, mais t'as des phobies?
Des phobies, alors je suis un peu claustro, je t'avouerai.
Ouais.
Ah ouais, tu vas prendre l'ascenseur, ça me rend vraiment pas bien. Enfin, okay. Ouais, c'est soit claustro ou soit dans des endroits où il y a trop de monde, je suis pas bien non plus, en fait. Tu vois, quand je suis dans une salle de concert, enfin, il faut bien que je boive un verre ou deux pour me sentir bien, mais sinon, au début, je suis pas au top. Ouais.
T'as besoin de grands espaces, en fait.
Ouais, exactement. J'ai besoin de grands espaces. C'est là où je me sens mieux, apparemment.
Parce que je lisais dans une interview que t'aimais pas du tout, par exemple, en compète, quand il y avait une mauvaise visibilité.
Ouais, ça, j'ai un peu peur du brouillard quand je suis en montagne, je t'avouerai. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe pas du tout. De me retrouver au milieu de la montagne, sur un glacier, même si, tu vois, t'as toutes les applications possibles maintenant pour te retrouver en montagne. Ça, c'est une sensation que j'aime vraiment pas. J'arriverai pas à t'expliquer pourquoi, mais ça, c'est vraiment pas un truc que j'aime.
Bah écoute, ça rejoint peut-être un peu le côté claustro et tu te sens asphyxié à cause de la mauvaise visibilité, à cause du brouillard, je sais pas, il y a peut-être un truc.
Sûrement, sûrement.
Je fais de la psychologie. La psychologie à deux balles.
On parlait de la... Bah c'est clair, enfin, je t'en prie.
Non, en vrai, en plus, tu sais quoi, je suis trop passionnée par ça, tout ce qui est aspect psychologie, mental et tout, c'est vraiment encore un univers qu'on n'a pas assez exploré à mon goût. Et en fait, tu vois, si t'as beau être prêt physiquement, si t'es pas là mentalement, et ben ça risque de pas bien se passer, que ce soit en compète ou dans la vie de tous les jours, tu vois.
Tu te renseignes là-dessus? Tu lis des bouquins? C'est vraiment un truc sur lequel tu t'informes?
Vraiment, en fait, depuis que j'ai commencé à faire de la prep mentale, plus j'avance là-dedans, plus je me dis, non, mais en fait, c'est tellement passionnant, ce milieu du mental. Comment marche ton cerveau, les routines que tu dois mettre en place en veille de compétition, savoir qu'est-ce qui t'apporte du bien-être par rapport à ton comportement. Enfin, c'est vraiment, c'est tellement vaste comme sujet, c'est vraiment incroyable.
T'as appris à mieux te connaître.
La méditation aussi. Ouais, totalement, totalement. Et puis, quand t'apprends à mieux te connaître aussi, en fait, finalement, tu vas apprendre aussi à connaître les autres et c'est ça aussi qui est chouette.
Ouais, t'as vraiment le sentiment que ça te donne des clés pour mieux te sentir dans la vie. C'est un peu bébête dit comme ça, mais...
Non, mais si, c'est ça, en fait. C'est que j'apprends mieux à me connaître, je connais mieux mes périodes de stress, comment je dois les gérer pour économiser mon énergie, enfin même dans la vie tous les jours, tu vois, au lieu de m'énerver sur un mec qui m'a coupé le passage, et ben j'essaie de garder mon énergie pour moi et puis évacuer cette énergie dans quelque chose de plus important plus tard. Ça se décalque un peu dans mon quotidien et dans ma personnalité. Et après, je sais pas si ça a des effets positifs ou négatifs, j'en sais rien, mais en tout cas en snowboard, ça marche bien, quoi.
Moi, je trouve ça super intéressant aussi. Donc là-dessus, si on pourrait en parler pendant des heures, on fera un autre podcast. Mais t'as des trucs qu'on t'a appris ou des tips que tu pourrais là nous partager? Tu vois, un truc très simple à mettre en place quand t'es dans une situation de stress ou des choses comme ça?
Bah juste, tu vois, de travailler sur ta respiration, c'est tellement incroyable. Là, par exemple, c'était quand en Andorre, en fait, j'ai dû attendre à peu près 20 minutes avant de dropper parce que le live ne marchait pas. Alors, je te laisse imaginer les montagnes russes d'émotions, ouais. L'adrénaline qui monte. Toutes les 5 minutes, on dit en fait, tu drops, en fait, non, en fait, oui, en fait, non. Et en fait, du coup, tu as des espèces de pics de stress qui n'étaient pas faciles à gérer. Donc, tu vois, je me suis posée en face de la montagne qui était juste derrière la porte de départ et j'ai travaillé ma respiration. J'ai essayé de détendre mon corps et ça m'a fait un bien fou, en fait. Juste de travailler la respiration 10 minutes, c'était exceptionnel.
Trop bien. Petit tips, la respiration, quand tu respires en 4, que tu souffles en 4, la cohérence cardiaque, non, ce genre de truc.
Ouais, c'est ça, ouais. Bien vu, ouais.
Alors, je voulais revenir aussi parce que forcément, tu parles de montagne tout à l'heure, on parle de grands espaces et tout, et on sent que c'est quelque chose qui est hyper important pour toi. Ça représente quoi pour toi, la montagne ?
Bah, la montagne, c'est un endroit... Comment t'expliquer déjà de liberté, parce que une fois que t'es là-haut, et ben en fait t'oublies tous les problèmes de la société, t'oublies le Covid, t'oublies tous les soucis et en fait t'as une liberté d'expression liée à la montagne avec ce soit l'été ou même l'hiver que tu retrouves pas dans la société normale en fait et tu te rapproches un peu aussi finalement de ce qui est l'origine de l'humain, qui est un peu presque l'origine, c'est peut-être un peu stupide ce que je vais dire, mais un peu l'origine animale en fait.
Ouais.
Parce que là, tu vas développer tous tes sens, ta vue, ton ouïe, enfin ton odorat, il y a tout qui rentre là-dedans une fois que tu es en montagne et tu te retrouves avec toi-même en fait, tu te sens bien, tu retrouves tes origines en fait, tout simplement.
Et c'est rigolo parce que je lisais aussi que tu faisais plein d'autres sports, que tu faisais du skate, je crois que tu fais de l'escalade, du wake, du parapente, enfin plein de choses. Et il y a un point commun, c'est que c'est d'ailleurs que des activités d'extérieur.
C'est ça. En fait, ce que j'adore, c'est qu'en montagne, déjà, tu peux tellement varier les activités sportives, tu peux pas t'ennuyer. Là où j'habite, en fait, chaque jour, tu peux pratiquer une activité différente selon les saisons. Et en fait, ça me permet aussi de mieux me comprendre par rapport à mon physique, mes réactions, mon mental sur d'autres sports. C'est assez complémentaire. Tu vois, par exemple, le parapente, ça va me permettre de mieux comprendre aussi comment marche le vent, ouais, et comment ça va impacter la neige. C'est tout un schéma de la nature qui rentre en compte, en fait, qui est super intéressant.
Bah, ça me fait réagir parce que j'ai vu que tu avais participé, je crois, en 2019 à un raid organisé par l'association Lead the Climb.
Oui, c'est ça, ouais, exactement.
Vas-y.
Et ouais, non, mais d'ailleurs, cette association, elle est géniale. En fait, c'est une association qui aide les femmes à un peu prendre plus d'indépendance et plus de décisions en montagne. Et ce raid de 3 jours, c'était magique. On était entre nanas à se débrouiller avec notre carte, avec nos GPS, avec nos cordes, à se déplacer en montagne pour aller chercher la meilleure des neiges.
Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'intéresse aussi de mieux comprendre la nature, de mieux comprendre la montagne, en l'occurrence ?
Bah, ouais, carrément, parce que c'est un aspect sécurité aussi de comprendre ton environnement et le milieu qui t'entoure. En fait, ça te permet de mieux avancer avec peut-être plus de sécurité aussi. Ça me réconforte de mieux la comprendre finalement sur l'aspect risque ou sur l'aspect engagement.
Lead the Climb, ils se décrivent comme, je reformule, mais en gros, eux, c'est pour plus de femmes leader en montagne. Est-ce que tu trouves qu'il manque de femmes leaders en montagne ? C'est quelque chose qui manque ? Les femmes osent pas se lancer dans ce type d'activité ou...
Ça commence à changer, mais c'est vrai qu'on voit toujours plus de garçons que de femmes faire une cordée en montagne ou aller organiser une sortie en ski de rando. Là où j'habite, à côté de Chamonix, bah, en fait, il y a quand même beaucoup plus de garçons qui vont aller créer des projets, même dans le snowboard. C'est plutôt rare de voir des femmes être premières de cordée, donc c'est pour ça qu'on a envie d'encourager les filles en général à prendre confiance en elles et à acquérir de l'expérience pour qu'elles aussi vivent des histoires extraordinaires.
Ouais, toi, t'as envie de t'engager là-dedans ?
Je le fais déjà un peu plus ou moins, dans le sens où je me suis fait la réflexion l'autre jour comme quoi ça manquait un petit peu de visibilité au niveau snowboard féminin dans certains magazines et je me suis posé la question du pourquoi et c'est là où je me suis dit en fait, il faudrait mieux mettre toutes les nanas en connexion, que ce soit les photographes, toutes les rideuses françaises, et puis que là, on puisse avoir un vrai nid de connexion pour qu'on puisse créer des projets, qu'on puisse créer vraiment des belles choses à offrir aux magazines, aux médias ou même aux réseaux sociaux. Et mais oui, c'est quelque chose qui me porte à cœur parce que ça me fait plaisir de voir des petites filles aller s'éclater, quoi, qu'elles soient pas forcément rangées dans ce que la société veut faire de la femme, qui doit être absolument la femme parfaite, qui doit rester... Enfin, je pourrais passer des heures là-dessus, mais c'est encore vu un peu d'un mauvais œil des fois de faire des sports extrêmes. Donc, j'ai envie de changer, de switcher un peu ce stéréotype. Nous aussi, les femmes, on peut aller faire du skateboard, du snowboard, du surf, du parapente.
Yes.
On peut faire aussi toutes ces genres de choses sans problème.
Bah, carrément, carrément. T'as senti dans ta carrière qu'on te faisait comprendre que c'était dangereux, que t'étais peut-être pas à ta place
Ouais, mais c'était pas forcément des gens de mon milieu. C'était plus des gens à l'extérieur du snowboard, en fait. C'était pas forcément les personnes que je fréquentais en snowboard. Donc, c'est ça qui est rigolo.
C'est les gens qui connaissent pas, en fait.
Ouais, c'est ça, ouais, exactement, qui ont vite des préjugés ou des stéréotypes alors qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, finalement.
La méconnaissance qui amène, finalement, au jugement.
Voilà, exactement. Oh là là, mais on part dans de la philosophie, là, c'est... Attention.
En fait, vous pensiez qu'on allait parler de sport et ce genre de choses, mais non, pas du tout. Non, on parle du psyché, on parle philosophie, voilà.
Bah d'ailleurs, en parlant de ça, j'adore les podcasts de Philosophies Sexy. Je ne sais pas si ça te parle, mais j'adore ce qu'elle fait. Dès que j'ai 4 heures de route, je me mets ces podcasts-là et c'est hyper enrichissant. J'adore ça.
Est-ce que tu as... Il y a d'autres... Peut-être hors du milieu sportif, j'en sais rien, mais tu as d'autres passions.
J'adore les bouquins, j'adore aller dans une librairie et puis... acheter un bouquin comme ça au hasard qui m'a tapé à l'œil. J'aime la poésie, j'aime plein de trucs un peu, un peu personnels, mais j'aime beaucoup écrire aussi.
Tu lis quoi, par exemple ?
Là, par exemple, je lis un livre de Sylvain Tesson. J'ai acheté aussi... comment il s'appelle déjà ? Il est sur mon bureau. « S'unir au vivant ». Donc, ça s'appelle « Traité pratique pour se reconnecter à sa vraie nature ».
Yes.
C'est un mec qui avait un métier à Paris, qui a pété un câble. Et du jour au lendemain, il a tout quitté. Et puis, il est parti faire de la méditation et se reconstruire... auprès de la nature et c'est hyper enrichissant ce qu'il raconte là-dedans. Je me retrouve un peu dans ses paroles sur la connexion avec la nature. Enfin, on va me prendre pour une perchée,
mais non, trop pas.
Mais j'aime bien ce genre de bouquin en fait qui te reconnecte un peu à toi-même et à la nature. En fait, je pense que l'humain est parti un peu trop loin avec la société actuelle et a oublié un peu les bases de ce qu'on est vraiment et la nature peut tellement nous apporter que j'aime bien lire des ouvrages là-dessus. Voilà.
Et tu parles de la nature, bah, on parlait de la montagne tout à l'heure, mais c'est pareil, est-ce que ton rapport à la nature, il a changé ? On est dans une société maintenant où on essaye un maximum de mettre en avant ce qui est développement durable, respecter l'environnement. Est-ce que c'est pareil des choses, toi, qui te touchent en plein cœur ?
Totalement, parce que je le vois de mes propres yeux, en fait, en même pas 10 ans, la fonte des glaciers est juste à côté de chez moi. Et ça me tient à cœur aussi de trouver des moyens, ou du moins... essayer de trouver des solutions pour réduire notre consommation. Après, le problème, c'est qu'en tant qu'athlète, on est tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de voyager. Ouais. Et ce n'est pas forcément facile d'être porte-parole sur ce sujet. Mais en tout cas, moi, dans mon quotidien, j'essaye de faire le nécessaire au niveau de mes achats. J'essaie d'acheter local, de manger équilibré sans forcément mettre de la viande dedans. Enfin, c'est plein de petits gestes comme ça que j'essaie de faire.
Et tu le vis comment un peu cette schizophrénie de l'athlète qui bouge beaucoup et en même temps où c'est ton lieu de travail ou c'est...
Je ne le vis pas forcément très bien et c'est un peu bête ce que je vais te dire, mais je me voile un peu la face là-dessus parce qu'en fait, tu vois, par exemple, j'avais fait mon mémoire de licence sur le développement durable et l'industrie outdoor. Ouais. Et en fait, quand j'ai mis mon nez là-dedans et que je me suis rendu compte en fait comment on fonçait droit dans le mur, même si on essayait de mettre tous les moyens en place, et ben ça m'a fait vraiment, vraiment flipper et... limite, j'étais pas bien du tout quoi, à un moment, ouais. Quand j'ai commencé à penser à tout ça. Du coup, j'essaye un petit peu de relativiser, de me dire que des cerveaux très intelligents vont trouver des solutions un de ces quatre. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me stresse carrément. Enfin, quand j'en parle autour de moi, on est tous touchés par ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique. Et même quand on voit l'évolution de la neige, et ben, tu te dis qu'en fait, dans 40 ans, ce ne sera pas du tout des saisons que l'on a vécues ou qu'on vit actuellement. Même maintenant, la neige, elle est quand même plutôt rare par rapport à l'époque de nos grands-parents. Enfin, on voit même les stations qui essayent de se réinventer au niveau de leurs activités pour attirer plus de public hors du ski. On le voit en face de nous. Ouais.
Tu le vois vraiment concrètement au niveau de la quantité de neige, de la qualité de la neige. Mais limite, tu te dis pas que en fait ton sport un jour peut-être il pourrait même disparaître.
Bah totalement. Bah ça c'est clair. Hein. Je pense que mes petits enfants, quand ils vont voir des photos de nous en train de faire des compétitions sur des faces enneigées, je pense qu'ils risquent d'halluciner. Ouais, ça c'est clair.
Ouais. Quelle tristesse.
Malheureusement. Bah ouais, ça fait mal au cœur, mais ouais, j'essaie de... Enfin, c'est un peu nul de se voiler la face là-dessus, mais c'est vrai que ça me touche, du coup, ça, je suis quand même une personne plutôt sensible et j'essaie de pas trop y penser, sinon ça me plombe le moral, quoi.
Ouais, c'est un vrai truc qui pourrait... qui te touche...
Ah ouais, totalement, totalement. Et je pense qu'on est tous dans ce même cas-là, on se sent tous un peu impuissants, même si on est là... à consommer local, à faire le tri de ses déchets, à essayer de récupérer des fringues sur Vinted, j'en sais rien, mais c'est...
Ouais.
En fait, au fond, on voit que même tous nos efforts possibles, eh ben, on fonce quand même droit dans le mur, quoi. Mmh. On va être de plus en plus de personnes sur la planète, on aura encore plus en plus de besoins au niveau énergétique, au niveau nourriture. Enfin, c'est... Ouais, je... Enfin, après, j'ai peut-être tort, hein. Peut-être qu'on va réussir à trouver des solutions, mais...
Bah, je l'espère, mais...
mais c'est vrai que c'est un sujet un peu déprimant. Hein.
Ouais, c'est clair. Bon, parlons d'autre chose.
On profite.
Absolument. Bah, profitons-en tant qu'on peut en profiter. Alors, je voulais rebondir aussi, parce que tu parlais de poésie, je trouve ça dingue. Tu lis de la poésie ?
Bah, ça m'arrive, ouais, Bon, c'est un peu ce que je vais dire, mais sur des comptes Instagram, je suis un petit peu de la poésie et... Et j'aime les choses un peu tournées autour de la poésie, des choses poétiques, en fait. Et puis, en fait, quand tu regardes la nature, c'est déjà quelque chose de poétique, tout simplement.
C'est marrant, j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui se pose vachement de questions.
Ouais, je me pose tout le temps des questions et ça cogite pas mal dans ma tête. Mais c'est ce qui me permet aussi d'avancer, en fait. C'est que je me remets tout le temps en question déjà d'une moi-même. Et en fait, je repars à zéro tout le temps. Et c'est aussi ça qui me permet d'avoir peut-être plusieurs titres, je pense. J'en ai déjà parlé avec mon prep mental. Et je suis une personne comme ça et je ne changerai pas. Mais je pense qu'il y a des bonnes choses à en tirer de se poser des questions souvent.
Ouais, ça te fait grandir. Enfin, ça te fait grandir. Ça te fait évoluer du moins. Pareil, j'ai vu ça sur ton Insta. Je crois que tu es engagée, tu es ambassadrice d'une asso qui s'appelle Yambi.
Oui, c'est ça. C'est un projet qui tourne autour, en fait, de réfugiés que l'on aimerait aider à monter au Mont-Blanc. Donc, en fait, il y a plusieurs réfugiés qui ont été sélectionnés. Et avec Léo Slemet, qui est aussi champion du monde en ski, on va leur donner un coup de main déjà pour les équiper et puis pour les entraîner dans l'espoir de les amener au mois de juillet au sommet du Mont Blanc. Et ça va être quelque chose de hyper significatif de pouvoir les emmener là-haut, parce que ce sera les premiers réfugiés à atteindre le sommet du Mont Blanc.
Ok, ouais, j'ai vu que l'association, en gros, le but c'était de tisser des liens entre les personnes réfugiées et la population locale lors de sorties en montagne, c'est
exactement
ça.
C'est pour casser aussi les préjugés, les stéréotypes qu'on a sur les réfugiés, et que les gens apprennent à mieux les connaître, parce que chacun de leur histoire est juste incroyable. Enfin, c'est eux les super-héros, en fait. C'est eux les champions, c'est pas nous. Mais quand on apprend à les connaître, t'es sur le cul, quoi. C'est des personnes incroyables, quoi.
Pourquoi t'as voulu pourquoi tu as voulu t'engager avec cette association-là? C'est un sujet qui te touchait personnellement?
C'est un sujet qui me touchait personnellement et j'ai déjà été, je suis toujours d'ailleurs marraine de aussi Riders for Refugees. En fait, on récolte des fringues dans le milieu de l'outdoor ou via des événements en demandant aux gens de ramener tout ce qu'ils ont au fond de leur placard pour le redistribuer après aux réfugiés. Ouais. Et c'est quelque chose qui me touche parce que en étant grenobloise, et ben en fait, il s'est passé plein de choses horribles à la frontière italienne de jeunes réfugiés qui essayaient de venir en France, qui se sont perdus en montagne, qui n'ont jamais retrouvé leur chemin et tout ça en claquette quoi. Donc de savoir des histoires comme ça juste à côté de chez moi, et ben j'avais besoin de mettre là-dedans pour de m'engager pour les aider et me sentir utile dans ce sujet en fait, parce que j'ai pas mal de connexions aussi dans le milieu de l'outdoor, à droite à gauche, et autant utiliser toutes ces connexions pour aider les autres.
T'as besoin, en fait, t'es quelqu'un, t'as besoin de faire bouger les choses en fait globalement.
Ouais c'est clair. En fait aussi, j'ai tuté un truc aussi à un moment, c'est que quand t'as la chance d'avoir les médias qui sont braqués sur toi, entre guillemets la chance, et ben faut en profiter pour faire passer aussi des messages, que ce soit sur la cause de la femme, pour amener plus de nanas en montagne, pour aider les réfugiés. Enfin, je profite de cette voix et de cet aspect communication pour apporter des choses positives en fait, et pas être juste là salut, je suis championne du monde. En fait, on s'en fout, il y a un moment, il y a d'autres choses aussi à faire derrière que juste faire des résultats en compétition.
C'est trop bien. Bravo, non, franchement, non, mais c'est grave cool. C'est grave cool.
Merci.
Moi, j'avais une question. Alors là, vraiment, on part complètement en live. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est cette petite collection de peluches?
Ah, la collection de peluches! Alors, en fait, l'autre jour, on partait d'Autriche avec une copine, Colline, et on s'est arrêté dans une aire d'autoroute. Et en fait, je sais pas, j'ai craqué pour ces peluches. Et en fait, j'ai pas vu mes nièces depuis Noël. Et j'ai un petit crew de nana à la maison. Elles sont quatre filles que j'aime trop. Et puis bah, là, c'était l'occasion de leur acheter un petit cadeau et leur offrir ça à la fin de saison, quoi.
Pour expliquer d'où ça vient, t'as fait une story Instagram là il y a quelques temps avec ces petites peluches qui étaient absolument trop mignonnes dans ton coffre. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Alors du coup, franchement, j'ai commencé à me faire une histoire dans ma tête en me disant ça se trouve elle achète des peluches à chaque fois après une compète, entre chaque compète sur des aires d'autoroute et tout. mais non, mais du coup c'était pour tes nièces.
Ouais, c'était pour mes nièces. Ouais, non là c'était pas pour moi, bien qu'il y en a bien une que je garderai, mais bon je pense qu'elle servirait plus à mes nièces qu'à moi quand même.
t'as des petits gris d'ailleurs, ou des petits porte-bonheur, des trucs comme ça?
Non, j'ai pas des gris-gris, mais tu vois, sur mon bureau, j'ai plein de petits mots de ma famille, des photos de mes amis, des petits quotes of the day avec des trucs qui me font du bien à voir ou à lire, en fait. Ça, c'est un peu mes petits gris-gris du quotidien.
Ok. Tu disais que t'avais quatre nièces, donc en fait, vous êtes globalement une famille de nana, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu girl power à la maison, tu vois. Et même c'est ma mère qui porte qui porte la responsabilité de plein de choses à la maison, tu vois, c'est un peu elle.
Ah ouais,
qui... ouais c'est elle la chef.
T'as eu des rôles modèles féminins en fait depuis toujours, quoi.
C'est ça, ouais, exactement.
Et tu deviens le futur modèle de la génération d'en dessous des petites nièces.
Je sais pas, mais en tout cas j'espère les motiver à se créer leurs rêves et puis à se dépasser et à pas douter d'elles-mêmes, quoi. Enfin, j'espère amener en tout cas plus de petites nanas à faire du snowboard et à se réaliser là-dedans, parce qu'il y a plein de belles choses à vivre.
Et que ça a été beaucoup de bonheur pour toi.
Ah bah totalement, hein, franchement. Pour rien au monde, je quitterai le rythme de vie que j'ai en ce moment.
Bah écoute, on te souhaite que ça dure très longtemps.
Merci.
Et c'est vrai que spontanément, on se connaissait pas du tout, on s'était jamais rencontrés. Bon, malheureusement, on le fait à distance, mais les personnes qui font des sports extrêmes, on a un peu des a priori. Peut-être fonceur, qui réfléchit pas trop, tu vois, un peu là-dedans. Et quand on parle avec toi, on sent que toi, c'est tout l'inverse. T'es fonceuse, mais de façon très réfléchie, et je trouve ça hyper, hyper intéressant.
C'est justement ça aussi qui me tient à cœur, c'est de montrer qu'on n'est pas des têtes brûlées qui sont juste là pour... tester la testostérone et les hormones. Et on est des êtres réfléchis avec beaucoup de cœur et beaucoup de sensibilité aussi, l'air de rien.
Bah ça se sent à fond. Et une dernière question. Forcément, c'est la question qui clôture le podcast. Notre podcast s'appelle Championne du monde. Quelle est ta définition d'une championne ?
C'est une guerrière qui arrive à passer outre ses blessures, ses échecs, qui arrive à gérer son énergie, ses émotions, et qui est surtout, avant tout, passionnée.
Eh bien, écoute, Marion, je te remercie beaucoup pour ce petit moment. C'était vraiment super chouette.
Ben, merci à toi, Cléo. C'était trop bien de discuter avec toi. J'avais l'impression de parler avec une copine, tu vois.
Trop bien. Merci beaucoup, Marion. Salut.
Allez, salut. Ciao, ciao.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.